Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
C'est le retour du carnet de région cette semaine, toute l'actualité de la semaine passée et à venir avec différentes radios associatives qui vous proposent ce magazine d'information cette semaine. Avec au sommaire un web documentaire avec des portraits de patients touchés par le scandale du Mediator. Nous en parlerons, c'est le projet d'un photographe montpelliérain. Le 18 et 19 novembre se dérouleront les journées des fils et de la laine. Ça se passe à Florac. Nous reviendrons sur cette information dans le cadre de ce magazine. Une association vient d'être créée à Saint-Bosile-de-Putois, impliquée notamment dans l'accompagnement des migrants suite à l'évacuation de la jungle de Calais. Et puis pour finir, un peu de culture dans ce magazine avec le spectacle musical Les Choristes qui passe par Montpellier, s'arrête au Zénith ce samedi 11 novembre. Entretien avec Christophe Baratier, c'est le thème de ce nouveau carnet de région. Et pour débuter ce magazine d'information, chaque année, au début du mois de novembre, le Secours catholique rend public les chiffres de la pauvreté en France. Recueillis auprès des équipes sur le terrain, ils donnent une analyse des situations de pauvreté, de précarité. Isabelle Adam, nouvelle déléguée départementale du Secours catholique.
Il nous apprend encore et toujours, malheureusement, que le profil de la pauvreté évolue et que c'est dans le silence et les non-dits des préjugés. Donc, de façon un petit peu concrète, on peut se dire que la cohésion sociale est mise à l'épreuve par les préjugés que chacun d'entre nous peut avoir, alors que finalement, les situations de pauvreté sont extrêmement variées. Par exemple, là sur l'ensemble de la France, mais c'est encore plus marqué en région Occitanie et dans le département de l'Hérault, les personnes qu'on appelle les seniors, en fait les gens de plus de 55, 60 ans, isolés, sont de plus en plus en difficulté. On remarque que dans les accueils de jour, ils représentent désormais 10% des personnes qui se présentent auprès des bénévoles.
Les accueils de jour, c'est les accueils pour les personnes en errance, c'est ça?
Oui, et voilà, donc auprès de ces publics-là, et on retrouve également ces personnes en grande précarité auprès des accueils sociaux. On les retrouve dans les boutiques solidaires, voilà, on les retrouve un petit peu finalement les différents types d'activités que le Secours catholique propose, avec comme première demande finalement un besoin d'écoute. Très présent. Et là, les statistiques nous servent vraiment, puisque on repère que ce sont 60% des premières demandes qui sont caractérisées par une demande d'écoute. Alors qu'on aurait l'impression que la demande financière vient en premier. Et bien, finalement, non. Voilà. Donc, notre rôle de communauté fraternelle et d'accueil bienveillant, là, prend toute sa dimension. Et on voit bien la spécificité du Secours catholique par rapport aux autres structures qui peuvent exister.
D'où l'intérêt pour les bénévoles de prendre bien soin à ça, écouter les gens, parce que c'est ce qu'ils ont
le besoin le plus fondamental, tout à fait.
À avoir, oui. Bon, les seniors isolés, mais les jeunes aussi, je pense.
Eh bien oui, malheureusement ça ne bouge pas beaucoup non plus. De ce côté-là, ça bouge un petit peu moins. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité en premier, puisqu'on a un peu l'habitude sur la région de se dire que beaucoup de jeunes sont en situation précaire. Ils ne trouvent pas leur place dans la société, avec un taux de chômage qui est particulièrement élevé. C'est pas un scoop, voilà, on le sait sur la région. Des étudiants aussi qui vivent dans des situations complètement précaires, logés à plusieurs dans des logements réduits, mal isolés. Enfin,
quand ils sont pas dans leur voiture.
Alors oui, ce sont souvent des un petit peu plus âgés, voilà. Des ruptures familiales de plus en plus nombreuses. Donc avec des jeunes qui se retrouvent à ce moment-là dans leur voiture ou à la rue. Et là, on les retrouve à l'accueil solidarité à Montpellier en particulier, avec des demandes qui sont basiques comme prendre une douche, un petit déjeuner chaud. Enfin, voilà, donc c'est quand même dramatique que des jeunes à 18, 22 ans soient déjà dans des galères qui pénalisent toute la vie qu'ils ont à construire.
C'était Isabelle Adam, toute nouvelle déléguée départementale du Secours catholique, pour commenter le rapport du Secours catholique qui sort chaque début novembre et sorti ce jeudi, un rapport sur la pauvreté.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croustillon.
Médiator, portrait de victimes au destin brisé. C'est le projet de Marc Dantan, qui est photographe montpelliérain. Il veut créer un web documentaire avec des portraits de patients touchés par le scandale Médiator. Le médicament a fait des milliers de victimes en France. Le procès des laboratoires Servier doit se tenir l'année prochaine. Son parti pris, mettre la lumière sur ces victimes du Médiator. Alice Bertias l'a rencontré pour RCF Maglonero.
On se rend compte que on entend parler de ce problème, mais on ne les voit jamais, en fait.
Marc Dantan, photographe montpelliérain, a la casquette vissée sur la tête, le blouson sur le dos. Le scandale Médiator, à la base, il n'en avait entendu parler que dans les journaux, comme tout le monde. Et puis un jour, c'est le déclic.
Je suis allé au cinéma voir le film d'Emmanuel Berco, La fille de Brest. Et en sortant de là, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas laisser des situations pareilles dans le pays, il faut agir, faire quelque chose. Moi, je suis photographe, je vais faire des portraits de victimes.
Il réfléchit à ce projet photo de portraits de victimes et contacte Irène Frachon, la lanceuse d'alerte du scandale Médiator. Elle lui apporte immédiatement son soutien.
C'était impératif. Elle est vraiment le personnage central de la lutte contre les scandales sanitaires. C'est vraiment quelqu'un avec une personnalité très forte et qui endure beaucoup de choses.
Son projet, un web documentaire avec une carte interactive de la France. À chaque point, le portrait d'une victime accompagné de sa photo en noir et blanc.
Le noir et blanc, ça m'a semblé automatique pour moi parce que la couleur, c'est beaucoup trop riche. Moi, je voulais rester concentré sur le regard des victimes, sur leur courage, sur leur dignité.
Marc Dantan a déjà récolté 11 000 euros. Son projet est ambitieux et le dépasse. Les laboratoires Servier l'ont même contacté.
Ils m'ont téléphoné et j'ai eu la DIRCOM qui voulait savoir un peu ce qu'était mon projet et pourquoi je ne voulais pas photographier des victimes qui allaient bien, en gros, quoi. De toute façon, moi, j'ai rien à leur dire. Je m'intéresse essentiellement aux victimes. Le laboratoire, il va y avoir un procès. Il y a des cabinets d'avocats qui sont contre eux. Donc moi, je fais des photos. Effectivement, j'imagine que mettre des visages et des vies sur des gens qui vont très mal, ça va pas leur faciliter la tâche, c'est clair.
Pour l'instant, il a déjà réalisé 3 portraits dans l'Hérault, sa région d'origine, à la rencontre de ses destins brisés, comme il les appelle.
Toute leur vie est complètement bouleversée à cause de cet emprisonnement. Les 3 personnes que j'ai vues sont limitées en conditions physiques, ne peuvent pas se déplacer autant qu'elles le voudraient. Claudie, par exemple, qui est à Rivesaltes, a eu 3 interventions chirurgicales graves.
Claudie a été prise en photo chez elle, dans son salon, et malgré la souffrance constante, elle sourit.
On ne peut plus l'opérer aujourd'hui, c'est trop risqué. Elle est tout le temps essoufflée, elle ne peut rien faire, elle est très mal, et puis sa vie tient à un fil. Donc psychologiquement, on ne se rend pas compte de la difficulté au quotidien de vivre ça.
Rendre visible cette douleur souvent invisible, mettre des visages sur ses victimes, rendre réel le scandale Médiator grâce à ces photos, c'est le défi de Marc Dantan.
Il manque un peu plus de 3 000 euros à Marc Dantan pour réaliser son projet. Vous pouvez l'aider grâce au financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gare.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Et direction Florac, maintenant. Les 18 et 19 novembre prochains se dérouleront les journées des fils et de la laine. Une manière de mettre en avant les différents acteurs de ce monde bien méconnu du grand public. À cette occasion, Sandy de Radio Bartas a rencontré Julien Tuffry, qui est membre de l'atelier Tuffry, justement, plus ancien producteur de jeans français basé à Florac.
Alors, ce sera assez compliqué en quelques minutes de résumer les 125 ans d'histoire de la marque. Mais c'est clair que voilà, c'est la plus ancienne manufacture française de jeans qui est installée à Florac depuis l'époque de mon arrière-grand-père. Et avec ce souhait indétrônable de rester sur Florac pour le siècle à venir de l'entreprise Tuffery, on est en passe de recevoir notre nouvel atelier. Donc c'est chouette puisque ça marque vraiment cet ancrage et artisanal et territorial sur cette fabrication là de jeans très authentique dans la pureté du savoir-faire. Mais qui fait que les jeans sont chouettes, sont beaux, sont durables. Et oui, on pourrait en parler encore pendant très longtemps.
Donc vous dites que vous allez bientôt avoir un nouvel atelier, vous restez quand même sur Florac ou...
Exactement, ouais, ce nouvel atelier, c'est une au-delà de l'aspect artisanal création, économiquement, c'est un C'est un point qui est hyper important parce que c'est un atelier qui s'est fait en partenariat avec, avec une collectivité territoriale qui a été juste géniale de ce côté-là. Donc c'est sur le montage d'un atelier relais. Et vraiment, c'est fait sur Florac. C'est fait sur Florac. Ils ont très vite compris l'intérêt de garder cette petite pépite économique sur Florac. Donc ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'on peut bâtir un atelier ensemble. Donc juste à l'entrée de Florac, ce sera la zone artisanale. Et la stratégie s'avère payante puisque ne serait-ce que depuis un an, on a embauché 4 personnes à l'atelier de Florac. C'est très modeste, on est très humble, mais pour une petite économie floracoise, c'est plutôt chouette.
Alors on m'a parlé que vous aviez un projet en cours avec le parc national des Cévennes pour associer de la laine au fil. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oula, alors là vous dévoilez en grande première le poteau rose ultra confidentiel. Non. du coup, pareil, toujours dans notre claire volonté de raisonner le plus éthiquement possible dans les circuits qui se valent les plus courts et surtout en parfaite adéquation avec nos valeurs, notre histoire. Mon arrière-grand-père, à l'époque, il utilisait de la toile. De toute façon, il n'y avait pas 50 solutions dans les années 1870. C'était de la fibre locale, c'était de la soie des Cévennes, c'était du lin, c'était du chanvre, c'était de la laine. Clairement, toutes ces filières se sont effondrées. Et derrière, aujourd'hui, on est en 2017, on s'aperçoit que, premièrement, qu'on est vraiment à la recherche de circuits très courts pour toutes les questions environnementales. On est à la recherche de produits d'énorme qualité. Aujourd'hui, la laine et ces nouvelles techniques de tissage, de filage et de tissage font que c'est un textile qui est absolument génial, qui a des caractéristiques thermiques qui sont exceptionnelles. Et tiens, ça tombe bien, Florac, capitale du patrimoine mondial de l'UNESCO pour l'agropastoralisme. Si nous, à Florac, on n'est pas à la pointe sur tout ce qui va être utilisation de la laine issue de nos têtes de brebis, alors même si aujourd'hui les brebis ne sont pas exactement fait pour ça, mais c'est pas grave, il y a plein de possibilités dans le temps pour les développer. Donc oui, on a voulu lancer ce sujet-là avec le parc, et d'ici quelques semaines, j'espère, je vais pas dire quelques mois, quelques semaines, ben on va peut-être dévoiler ce jean avec une forte proportion de laine, et en plus pour la petite histoire, ce sera de la laine si on lève la tête, de là, juste au-dessus du Cosmejan. Affaire à suivre très bientôt.
Merci beaucoup. Donc, l'atelier Tufferi sera présent avec nous sur le week-end du 18 et 19 novembre à la salle des fêtes de Florac. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu ? Est-ce que vous, sur ce week-end-là, vous pourrez nous montrer un petit peu un savoir-faire ? Qu'est-ce que vous...
Oui, avec plaisir, bien sûr. Alors, bien évidemment, alors vraiment, on aurait adoré déménager l'atelier pour l'événement. Sauf que bon, ça peut pas être assez anodin pour le grand public, mais pour faire un jean, il faut au moins 9 machines différentes. C'est un peu sportif de déménager 9 machines. Enfin, je vous passe un peu la logistique. Mais alors du coup, on va étaler tout notre savoir-faire là avec des petites des jeans en construction, différentes choses, et surtout on va profiter de cet événement vraiment basé autour de la matière clairement et de la technique de tissage pour un petit peu dévoiler tout le panel de toiles que l'on peut utiliser pour fabriquer des jeans. Le rendu des jeans, alors ça va du jean avec une proportion de soie, le jean avec une proportion de laine, le jean en chanvre, parce que là aussi, sans vouloir dévoiler le poteau rose, on est là, ça y est, il est fait, on va bientôt communiquer dessus. On a sorti le premier jean 100% chanvre qui est fait en France. Donc c'est juste génial parce que du chanvre jusqu'au jean, tout est européen. Donc voilà, on sort un peu de cette énorme filière au coton. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'on pourra discuter un petit peu de toutes ces différentes matières. Et c'est surtout un partage d'activités artisanales. Nous, on arrive vraiment après le côté tissage. Nous, on est tailleurs-confectionneurs. C'est-à-dire que c'est les compétences. On reçoit les rouleaux de toile, entre guillemets. Mais par contre, le produit fini est très dépendant de la toile. Donc on va parler de tout ça.
Eh ben, je vous remercie. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Il y aura encore d'autres artisans avec nous, parmi nous, qui travaillent les fils et la laine ce week-end-là. Donc, le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h. À très bientôt.
À très bientôt. Merci beaucoup.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Du côté de Saint-Bosile-de-Puitois, la limite des Cévennes Sud, une association vient d'être créée pour pérenniser la vague de solidarité qui s'est manifestée tout au long de cette année à la suite de l'évacuation de la jungle de Calais et à l'arrivée de migrants dans les centres d'accueil et d'orientation qui ont été installés partout en France, souvent en milieu rural d'ailleurs. Anne-Sophie Robin et Véronique Derdier nous expliquent pourquoi et comment elles sont impliquées dans l'accompagnement de ces migrants au sein de cette association nouvellement créée.
Accueil et solidarité en Cévennes. Voilà. Donc en fait, l'association, elle a vu le jour le 25 septembre 2017 et on a fêté ça à Montoulieu samedi 28 octobre, là tout récemment, parce que ça correspondait avec une date anniversaire très importante pour nous, qui était en fait l'arrivée des migrants depuis Calais, depuis la jungle de Calais, dans notre territoire cévenol. Voilà.
Donc je m'appelle Véronique Verdier, j'habite Saint-Bosile-le-Putois et je me suis joint à l'élan de solidarité qui était né par rapport à l'arrivée des réfugiés au CAO de Saint-Bosile. Personnellement, je me suis impliquée dans les dossiers qu'il y avait de certains réfugiés qui avaient reçu des rejets concernant leur refus de leur récit de vie, dans lequel ils expliquaient ce qui leur était arrivé. Et lorsqu'ils se présentent devant la commission à Paris, qui s'appelle l'OFRA, hein, l'Office français des réfugiés pour les réfugiés apatrides, eh bien, pour certains, on leur refuse le droit d'asile parce qu'on ne les croit pas ou parce que leur récit n'est pas suffisamment étayé. Donc ensuite, ils peuvent travailler ce dossier-là, apporter plus d'informations et se présenter devant la CNDA, c'est-à-dire la Cour nationale des demandeurs d'asile, qui se trouve à Paris. Et là, ils vont être réentendus, re-questionnés et ils auront la possibilité d'apporter des informations qui manquait peut-être dans le premier récit de vie. Et c'est à ce niveau-là souvent que j'essaye de les aider. J'essaye pas seule, hein, je travaille à ça, mais je me fais aider par beaucoup de personnes parce qu'il y a parfois il y a des compléments médicaux qu'il faut apporter, des compléments géographiques. Il y a toute une chaîne en fait.
C'était un sujet de nos confrères de Radio Escapade. Les choristes, le spectacle musical, le film Cut enfin sur scène après l'incroyable succès du film éponyme avec 8,5 millions de spectateurs. Christophe Baratier a choisi de l'adapter en un spectacle musical. Retrouvez sur scène les personnages et les titres que vous avez tant aimés. Les choristes, le spectacle musical à découvrir depuis le 23 février dernier aux Folies Bergères et s'arrêtera à Montpellier ce samedi 11 novembre à 20h. Christophe Baratier.
Il faut se poser la question de savoir si on n'est pas en train de faire un produit dérivé ou si on fait, modestement, mais une nouvelle œuvre. C'est évidemment le copier-coller, je l'aurais fait si, par exemple, j'avais utilisé des acteurs du film, que j'avais essayé de refaire des relations sans cesse avec soit les acteurs, soit avec le décor, de faire du cinéma sur scène, par exemple, ce que j'ai pas voulu faire, projeter. J'ai voulu traduire tout ce que les gens avaient sorti dans le film, à faire une adaptation, de le retrouver grâce aux moyens du théâtre. Donc, grâce à moyens, il y a des décors qui tournent et ça devient le préau. Enfin, c'est un peu magique, hein, le théâtre, souvent. Et c'est le plus magique et d'ailleurs souvent le plus artisanal. Comment mettre le feu un décor, enfin bon, il y avait plein de questions comme ça. Et puis surtout, je voulais vraiment qu'on se dise pas, il a copié le scénario et il a, voilà, j'ai cherché, il a fallu que je fusionne des personnages, que je rallonge des scènes, que j'en supprime. Et puis j'ai voulu le rendre aussi plus musical, c'est-à-dire que on a plus l'impression, entre guillemets, d'un spectacle musical que le film. On dirait pas que c'est un film musical, les choristes. On dirait que c'est un film, il y a de la musique, mais on l'appelle pas. Alors que le spectacle est clairement musical, tout simplement parce que les rôles d'adultes chantent d'une certaine façon. Ils chantent un peu comme des acteurs, mais ils chantent.
Ça veut dire qu'il y a des chansons inédites dans le spectacle, il y en a une qu'il n'y a pas dans le film.
Absolument, ça c'est un véritable apport. C'est-à-dire qu'il y a, que les gens se rassurent, il y aura bien Voix sur ton chemin, Caresse sur l'océan, Cerf-volant, tous les grands classiques du film, mais également des chansons que nous avons composées pour les adultes. Le début n'est, par exemple, n'est pas du tout pareil. Clément Mathieu n'est pas dans le film comme venant d'un flashback. On voit quelle est sa vie et pourquoi il accepte ce poste. On le voit chanter sur le chemin, quelle est sa vie. Mais je dois avouer que ces chansons, c'est pas fait pour faire des performances vocales. C'est pour avoir du charme, pour que certains chanteurs qu'on aime bien, qui ne sont pas forcément des chanteurs extraordinaires au point de vue de la voix. Et de cette façon, on se rend compte que le vrai beau chant, c'est les enfants quand même, malgré tout. Et que c'est juste une manière de rendre plus musicale l'atmosphère. En plus, le spectacle a été conçu aux Folies Bergères, ce qui est une salle musicale. Le spectacle va être joué dans les Zéniths. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas être trop théâtral dans les années, il faut quand même qu'il y ait du son. Et donc, voilà, il y aura plus de musique que les gens ne le pensent. Et puis, j'ai aussi changé des choses qui apportent, je crois, qui traduisent bien l'atmosphère du film. En fait, c'est le même récit, mais c'est vraiment une nouvelle œuvre.
Le spectacle musical Les Choristes, c'est à découvrir ce samedi 11 novembre à 20h au Zénith de Montpellier. C'est ainsi que se conclut notre magazine régional. C'était le Carnet de Région avec de nombreuses radios qui s'associent pour vous proposer ce magazine d'information, le récapitulatif de la semaine passée et à venir. Merci d'avoir suivi ce magazine d'information, le Carnet de Région, qui revient bien évidemment la semaine prochaine, même endroit, même heure.
Carnet de Région, l'actualité en langue de Croussillon.